Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est la Zulu Radio, c'est déjà le 4e numéro de notre émission Musique et Politique, on est ravis de vous retrouver. Je suis entouré de la même bande de rigolos que d'habitude, à savoir Monsieur Fred. Salut Fred.
Bonjour, bonjour.
Alias le somnambule qui nous régale de ses chroniques. Cathy est là également, comment tu vas ?
Ça va très bien, ça va très bien.
Parfait, alors, nous avons Maître Doulez à la technique.
Ouais, tu l'as.
Eh bien oui, il est là, toujours fidèle au poste. Il n'y a pas donné de micro parce qu'on lui demande pas de parler. Donc voilà, mais par contre, c'est grâce à lui que vous avez un son optimal. On a Mélanie aussi qui est avec nous. Ça va, Mel ?
Bonsoir à tous.
Et je vais vous présenter nos deux invités. Alors, c'est très très rare, mais aujourd'hui, les garçons, nous sommes en minorité, puisque... Les deux invités sont deux filles, ce qui n'est pas commun, mais ce qui fait quand même très plaisir. Alors, on va commencer par l'artiste qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Laura. Salut Laura.
Bonjour.
Bienvenue, ravi que tu aies accepté notre invitation. Alors, on va te présenter dans quelques minutes, mais on va dire globalement que tu es ici d'abord avant tout parce que tu es musicienne,
oui.
Mais que tu interviens aussi comme animatrice dans l'espace ado à Colombes. Et que tu fais partie également de la Fabrique SACEM sur la musique jamaïcaine.
Voilà, c'est ça.
Voilà, et que tu as aussi ton groupe qui s'appelle King for Queen. C'est ça ?
Il n'existe plus, mais
il n'existe
oui.
plus ? Ah bon, mais tu avais un groupe
oui,
alors.
Oui, c'est dommage. Mais...
C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça, tu sais, la musique...
On évolue.
Exactement, et puis finir un projet, c'est toujours en commencer un autre. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et nous avons également le plaisir d'accueillir à notre micro Valérie, qui représente Valérie Mestre. Pardon, là on donne le nom du coup, puisque vous venez non seulement en tant que camarade, mais également... En tant qu'élu de la ville de Colombes, salut Valérie.
Oui, bonsoir, du coup j'ai droit au vouvoiement, c'est terrifiant.
Non, c'était une blague, hein. T'inquiète pas, comptez pas de vous voyer très longtemps. Voilà, mais c'était juste manière de faire une intro. Alors Valérie, on avait eu le plaisir de t'accueillir à ce même micro, pas dans les mêmes lieux, mais à ce même micro, il y a un an, pour c'était une émission de présentation de la liste qui aujourd'hui n'est plus une liste, qui est une majorité régnante. À la ville de Colombes. Et on va parler avec toi de ta mission au sein de cette équipe municipale, puisque tu t'occupes de la politique de la ville. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ?
La politique de la ville, c'est ce qui concerne les quartiers prioritaires, donc les quartiers qu'on dit difficiles, parce qu'après, c'est aussi, on pourrait en discuter pendant des heures sur le fait que ce soit difficile, mais les quartiers que l'État classe comme prioritaires. Voilà, c'est ça la politique de la ville et tout ce qu'on peut mettre en place dans ces quartiers-là pour que les choses se passent le mieux possible.
Eh bien, écoute, ça tombe très très bien, puisque justement aujourd'hui, notre sujet de débat qui viendra après la chronique du somnambule concerne les quartiers au sens large. Quel projet pour les quartiers ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait en sorte que la culture aille vers les quartiers ou que les quartiers aillent vers la culture ? Quelle place pour l'éducation populaire dans les quartiers ? Autant de sujets de débat qu'on aura le plaisir de développer pendant l'heure qui suit dans cette émission, donc Musique et Politique. Vous avez les invités, vous avez le programme. Avant de faire une petite pause et de découvrir l'univers musical de Laura, je te propose de te présenter un petit peu, Laura, de nous raconter un petit peu ton parcours qui t'a amené jusque là où tu en es aujourd'hui.
Alors, du coup, je m'appelle Laura, j'ai 21 ans, j'habite à Colombes. J'ai commencé la musique en m'inscrivant au conservatoire pour faire du solfège. J'étais attirée par la musique, mais j'ai pas réussi à finir ma première année de solfège parce que je voulais directement toucher à l'instrument. Donc, je me suis inscrite à la MJC en 2011. Et plus tard, en 2015, j'ai découvert les Batucados. Qui sont issus de l'espace ado, lors d'un carnaval qui avait lieu dans la ville de Colombes. Et j'ai décidé d'y participer aussi. Donc plus tard, j'ai pu continuer à exploiter le fait que je savais faire de la guitare. Et ça m'a mené à monter un groupe, même plusieurs d'ailleurs, King for Queens. Et là, en ce moment, on a monté un projet, Tribute to Jamaican Reggae. Et du coup, maintenant, je suis animatrice à l'espace ado. Voilà.
La boucle est bouclée, en somme.
Exactement.
T'es pas mal, effectivement. Alors, je propose de découvrir un petit peu, ben justement, cet univers musical de ce dont tu as parlé, il y a deux petites secondes. Je veux bien, Fred, juste avant qu'on écoute, que tu nous présentes un petit peu ce projet.
Ça, c'est un projet, justement, qui fait le lien entre l'espace ado et l'après-espace ado, qui dépend, justement, en direct de la politique de la ville. D'un subventionnement à ce niveau-là, et qui va un petit peu plus loin justement pour faire la suite de la découverte à l'élan jusqu'à l'accompagnement justement de ces musiques. Et là, on avait l'idée de présenter pour ces ados qui ont été formés à l'espace ado et autres, et qui après se retrouvent un petit peu seuls, quoi. D'approfondir notamment une esthétique musicale que nous on aime bien, qui est le reggae, qui est l'évolution du reggae depuis l'indépendance de la Jamaïque en 63, quoi, et qui va du ska, du rocksteady, justement au reggae, avec des reprises et des découvertes non seulement artistiques mais aussi au niveau culturel, socio, politique, d'un monde qui fait que il y a une évolution, une connaissance. Il n'y a pas uniquement Bob Marley dans le monde du reggae.
T'as oublié UB40
aussi. Et voilà, de faire connaître à ces jeunes ce rythme, ces choses, ces évolutions, pour les amener à la découverte d'une part, mais à la scène et à faire tourner les choses et à les faire jouer le plus possible, quoi. Voilà.
Eh ben écoute, je te propose qu'on écoute un morceau, donc, de Tribute to Jamaican Music.
Oui, c'est ça.
Avec plaisir. C'était un live qui a eu lieu le 25 mai dernier à la MJC de Colombes. Très bien. Ça commence, c'est en devenir, c'est une tuerie atomique. Donc voilà, quoi.
Et on se retrouve juste après pour la chronique du somnambule. C'est musique et politique, c'est l'Azulu Radio.
Shelter me from war. Get me warm. Get me warm. You give my life to me. Set me free. Set me free.
Tribute to Jamaican Music à l'instant. C'était enregistré en live à la MJC de Colombes. C'était il y a pas longtemps. Hein. C'était mardi, il y a pratiquement 15 jours. Et c'était bien. C'était très très bien. Tu en as pensé quoi, Valérie ?
Soirée extraordinaire. Je vais pas dire le contraire.
Parle bien dans ton micro, Valérie.
Soirée
s'il te plaît.
Extraordinaire, mêlant tout la musique à travers les âges, puisque c'était en plus le titre de la soirée. Mêlant un groupe d'enfants, un groupe d'ados, un groupe de jeunes adultes devenus musiciens. Donc voilà, on avait toutes les évolutions possibles et ça ouvrait le champ des possibles pour tout le monde. D'ailleurs, il y a quand même un certain nombre d'enfants qui sont sortis de cette soirée en disant « Je veux m'inscrire à l'espace ado et je veux devenir musicien ». Donc, grande réussite, rien que pour ça. Voilà. Et des enfants des quartiers, puisque je crois que c'est la thématique du jour.
Il paraît, c'est la thématique du jour, je te confirme. Bon, ben impeccable. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, nous allons passer à
la chronique du somnambule.
Tout à fait, merci Buddy pour ce passage de parole. Celle-là, elle est très courte, elle est très, 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 très puissante, mais très, très courte. Je voudrais pas.
Il parle de sa chronique. Hein.
Je voudrais pas bouffer sur le. Je voudrais pas bouffer sur le débat, quoi. Allez, c'est parti. Alors, salut les amanches. En espérant que la reprise de la bamboche à 35%, le tigre a cru. Et l'ouverture des tireuses vous ont permis de vous mettre cool à temps partiel. Le contact en terrasse a bien pris en tout cas, collées, serrées, gavées qu'elles étaient. Les abeilles ont fait leur nid et les échanges romantiques ont pu reprendre leur cours. Plus simple pour faire des petits, bien sûr, qu'en visio. Alcool, musique et petites pépées, mâle ou femelle, la vie quoi. Bon, ceci dit, les nouvelles internationales ou nationales sont toujours aussi pourries, comme un Assange en train de crever, un détournement biélorusse ou un Clément Méric oublié. Toujours pas de révolution sociale ou climatique en perspective et un taux de crétins au millimètre carré toujours aussi conséquent. Tu connais déjà. La France sans élection encore et la droite tradie déchirée entre le FN et EM. Vous voyez, hein, le Front National et...
Et En Marche.
Et En Marche, c'est ça. Ouais, voilà. Comme d'habitude, les théorèmes se vérifient. FN au carré plus EM au carré égale MP3 au cube. MP3 au cube représentant la quantité exponentielle non marginale de la misère politique. Et oui, il faut le savoir. Pas gagné en somme. Je sens d'ailleurs que je vous ai un peu perdu là, sur ce coup-là. Allez, ainsi allons donc à l'essentiel. Colombes, ses élus et ses quartiers, puisque le thème de l'émission du jour porte sur cette question, sans cesse abordée, mais jamais traitée véritablement, même si de la ville au quartier, des ministères ont été créés, ainsi que des comités ou des adjointes au maire. C'est dire, mais on y reviendra. Un président énervé a même voulu, en son temps, nettoyer tout ça à grande pression. Bon, bref. Bon alors, les élus déjà, toujours impliqués mais pas toujours bien compris. Le ton a cependant changé. Ça va beaucoup mieux et la décision a été prise en haut lieu de nous permettre de récupérer nos locaux perdus sous les pétainistes. Cette décision demande encore visite et précision mais c'est pas mal. J'imagine la tête de nos détracteurs hydrocéphales comme un 54-46 au deuxième tour, donc un 54-46 au deuxième tour, le kiff absolu quoi. Ceci dit, on bosse en attendant, et on distille plus fort que sous la prohibition, une série d'événements sympas pour les jeunes de tous les horizons et de tous les âges. Faut dire, ça peut l'avenir quand même, la jeunesse. Alors, nourrissons-le, l'avenir, de concerts en live stream et de création en éducation artistique pour toutes et tous. Alors, et les quartiers ? Et les quartiers, on en parle, on en parle, on en parle. Périphérie oubliée ou petit village où il fait bon vivre entre voisins, agréables, conciliants et productifs. Ah, mais vous savez qu'ils peuvent en tout cas faire gagner une élection ou embraser une ville. Tu connais déjà. Alors, faut-il donc définitivement légaliser l'éducation populaire ? Et le cannabis, hein, on en parle maintenant. À vous les studios et un petit jet de cognac.
Hey, effectivement.
Bravo !
J'aime bien cette conclusion. Ça me plaît beaucoup. J'avoue. Ah oui, effectivement, les quartiers. Hein. Quel sujet. Mais on va y revenir. Est-ce que déjà, vous avez des choses à dire par rapport à cette chronique qui, effectivement, c'est court, mais c'est condensé. Hein. On dirait un gin tonic. Ça se boit vite, mais waouh.
Ou un cognac.
Oui, aussi.
Un cognac abricot. C'est pas mal, c'est...
Quelle idée. Mais quelle idée de gâcher du cognac avec de l'abricot. J'avoue, tu as été très inspiré, Fred. On a vraiment l'impression que quand il s'agit des élections présidentielles, municipales, les quartiers, on en parle. Mais alors, par contre, quand il s'agit des régions et du département, mais alors on s'en fout à un point. C'est pas quoi. À croire que ça intéresse pas qui vote les quartiers pour ces élections-là, hein, les régionales et départementales. C'est, je sais pas, vous avez un avis là-dessus ? Parce que mine de rien, on y est bientôt, et on a quand même l'impression que, bah mine de rien, à part de grandes phrases qui font pitié et qui, comme tu disais, Fred, nous rappellent vraiment le MP3 au cube, ben il y a pas grand-chose, quoi.
Alors moi je vais juste rebondir, en fait c'est pas que dans que les quartiers, c'est les élections départementales et régionales, personne n'en parle vraiment et personne sait vraiment, personne se sent vraiment concerné. Quand on parle autour de nous aux gens, qu'on leur parle des élections départementales et régionales, à chaque fois t'as l'impression que tu leur parles d'un sujet qu'ils maîtrisent pas, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'information et qui se rendent pas compte à quel point le département et la région régit notre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a les élections municipales, mais départementales et régionales ont vraiment un impact sur notre vie quotidienne, que ce soit sur les transports, que ce soit sur les lycées, que ce soit sur les collèges, que ce soit sur la culture. Enfin, à tous les niveaux, il y a quelque chose, il y a des sujets très importants. Mais en France, il y a un vrai souci, je trouve, pour ces élections et cette connaissance et cet intérêt aux élections départementales et régionales.
Alors, est-ce que ça vient du fait qu'on ne connaît pas bien les attributions respectives du département et de la région ? Est-ce que ça vient du fait qu'on a tellement agrandi les régions que, du coup, pour les gens, ça ne fait plus dire grand-chose ? Parce que, bon, c'est vrai que l'Île-de-France n'a pas bougé. Mais, par exemple, moi qui suis à la base originaire de la région Midi-Pyrénées, il a fallu qu'on pactise avec Languedoc-Roussillon, et ce n'est pas facile, hein, pour devenir la région Occitanie. J'avoue, ça, je pense, fait perdre un petit peu de sens local à ces élections pour la plupart des gens.
Non, mais je crois que c'est une réalité. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour le citoyen lambda, et c'est pas péjoratif ce que je dis, le département et la région, quelles sont les prérogatives de chacun ? Aujourd'hui, le département, et on vit dans le département le plus riche de France, qui dégage des excédents indécents, et on est un département où les prérogatives du département, justement, sont les plus sinistrées. L'aide sociale à l'enfance, c'est une prérogative du département, c'est sinistré. La prévention de la petite enfance, comme les PMI, c'est une prérogative du département et c'est sinistré. Donc ça a une vraie signification dans le quotidien de beaucoup de gens, sauf que beaucoup de gens l'ignorent, que c'est une prérogative du département, parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Le fait qu'il y ait de la prévention sur la toute petite enfance, le fait que l'aide sociale à l'enfance fonctionne, le fait qu'il y ait des assistantes sociales de secteur, tout ça, ça interroge quand même, et surtout dans un département le plus riche comme le nôtre. Voilà. Après, pour la région, on est encore à un autre niveau, mais effectivement, Cathy parlait des transports, on parle beaucoup des lycées, il y a beaucoup de prérogatives en termes d'emploi et en termes d'insertion au niveau de la région, mais pour les gens, tout ça, on ne sait pas qui gère ça, est-ce que c'est la commune, est-ce que c'est le département, est-ce que c'est la région ou est-ce que c'est l'État. À la limite, les gens, la seule chose qui les intéresse, c'est que ça fonctionne et que ça réponde à leurs demandes. Voilà. Donc il y a une vraie méconnaissance, et ce n'est pas péjoratif pour les gens d'avoir cette méconnaissance, c'est juste que les institutions ne font pas non plus le job, et en termes de communication, et puis surtout en termes de job quotidien. Si les services fonctionnaient, je pense qu'on ne se poserait pas cette question-là.
Ah, justement, tu devances un tout petit peu la question que j'allais poser,
Valérie.
Mais justement, j'allais dire, est-ce que c'est la faute justement d'institutions qui sont trop complexes ? C'est-à-dire qu'on est divisé entre la commune, le canton, le département, la région, la circonscription, la nation, l'État. C'est super compliqué quand même pour tout le monde. Alors, est-ce que c'est nos institutions qui sont trop complexes, ou est-ce que c'est justement les gouvernants de ces différentes institutions qui jouent là-dessus, justement, pour faire en sorte que ça évolue pas ?
Enfin, tu peux rajouter les communautés de communes, la métropole du Grand Paris. Enfin, là, il y a un millefeuille qui parle.
Ouais, j'avais fait exprès de pas les mentionner, celle-là, parce que j'avais peur que.
Oui, mais enfin,
j'avais peur qu'on ajoute encore 4 pages au dico, qu'il y en a déjà 1600, si tu veux.
Justement, donc, à qui ça parle, à part à quelques technocratiques qui en font partie et puis qui utilisent ce système, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, quel sens ça a pour le quotidien des gens La question mérite d'être posée. Je ne suis pas sûre qu'elle ait une réponse.
Ceci dit, c'est quand même une histoire de quartier. Hein.
Et de pas tout à fait. Pas tout à fait.
Et de bac à sable, hein, quand même. Cette affaire de séparatisme, tu vois, politique, tu vois, régional, à tous les niveaux. Quoi. Quelque part, moi, je le vois comme ça. Hein.
Bah, je veux bien que tu détailles ton propos, du coup, Fred, parce que...
Eh ben ouais. Bah ouais, ouais, bah ouais. Voilà.
Vas-y.
Les villes contre les départements ou avec, on ne sait pas. Avec les régions ou contre les régions, on ne sait pas. Avec l'État ou contre l'État, on ne sait pas. Et bon, on ne sait pas tout ça. Et bah, c'est qu'une histoire de séparatisme territorial quand même quelque part. Voilà, avec des alliances politiques, de grands appareils ou de grands appareils. Enfin bref, peu importe. On y est pas mal, quoi. Et ça introduit un peu ce qu'on va dire tout à l'heure, je pense, ou pas.
Ah bah oui,
tu vois, cette histoire de du qui a la plus grosse, quoi.
Bah, comme quoi, tu vois, quand tu t'expliques, c'est de suite plus clair.
Je te remercie, buddy. ça m'arrive souvent.
On revient un petit peu à ce que Mélanie expliquait lors de la dernière émission, justement, de pourquoi les gens se sentent plus concernés, parce que tout simplement, bah, ils n'arrivent pas à suivre. On ne se met pas au niveau. Alors, du coup, j'aimerais bien avoir ton point de vue, Laura, par rapport à ça. Est-ce que toi, ce sont des éléments qui te parlent ou est-ce que ça te passe au-dessus complètement
Tout ce qui est élection, tout ça.
Oui.
Bah, malheureusement, je suis très peu informée. J'ai reçu il y a quelques jours l'enveloppe qui présentait toutes les personnes, etc. Et bah, je ne suis pas assez renseignée pour donner un avis objectif ou subjectif.
Et donc, du coup, pour voter, tu préfères faire quoi ? Tu préfères dire « je ne sais pas, donc je ne vais pas aller voter » ou « tu vas quand même aller voter, mais en disant « en fait, je vais voter, mais je n'ai pas tous les éléments ».
Bah, le souci, c'est que je suis sûre de rien. Les dernières élections, celle du maire, il y a eu beaucoup... j'ai été très renseignée, parce que tout le monde en parlait. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment aucune information. Donc, je sais pas si... Il faudrait que j'aille voter, mais je sais pas si je le ferais en étant sûre de moi.
Et si, justement, en fait, si tu avais, comme tu disais, pour les dernières municipales, là, tu étais vraiment informé, si c'était des élections où on t'expliquait un petit peu mieux quelles sont justement les attributions de la région, du département, quelles sont leurs prérogatives, est-ce que ça, par exemple, ça pourrait t'inciter davantage à t'intéresser à cette élection-là et éventuellement à y prendre part ?
Oui, bien sûr, parce que c'est important que les choses évoluent et bah, nous, la nouvelle génération, entre guillemets, on veut que les choses changent. Et ce serait bien qu'on puisse y participer concrètement.
Bah écoute, moi je trouve que là, en quelques phrases, on vient de résumer ce que nous on explique depuis très très longtemps avec les Ulus. Donc ça fait très plaisir parce que, vous voyez, on choisit pas les invités en fonction de ce qu'ils vont dire, vu qu'ils sont pas prévenus à l'avance. Mais je pense que c'est extrêmement symbolique, effectivement. Et voilà. Il y a du taf, les enfants, il y a du taf. Mais on est là. On va faire un petit break, on va écouter un petit peu de musique parce que la musique adoucit les mœurs, à défaut de changer le cours des choses. Et ensuite, on va se retrouver pour parler effectivement des quartiers et de toutes les thématiques qui vont avec. On va refaire une petite parenthèse musicale en mode tribute to Jamaican music.
Tout à fait. C'est un morceau que moi j'ai vécu sur scène longtemps, pendant des années avec le Jamaica All-Star, Scully Sim, Johnny Moore, etc. etc. Ça s'appelle The Rocksteady, Alton Ellis, une tuerie atomique. Donc bah voilà. Écoute, il y a juste à écouter quoi.
Ah bah alors écoute, on dit plus rien, on écoute. Shake your head, right? Et c'était Tribute to Jamaican Music à l'instant sur l'Azur Radio dans Musique et Politique. Alors avant d'attaquer le débat, moi je voulais juste voir avec toi, Laura, qu'est-ce que ça évoque pour toi de jouer ces morceaux en fait ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues ces morceaux et que tu es sur scène ?
Bah déjà ça fait énormément plaisir de retrouver la scène parce que ça fait un moment que j'y étais plus, ayant quitté le projet Balade sans frontières de l'espace ado parce que je pouvais plus participer en ayant plus de 18 ans exactement.
Ton grand âge.
C'est dommage mais du coup on a réussi à monter un autre projet et le reggae ça m'a toujours parlé, j'aime beaucoup et c'est que du plaisir. Voilà.
Du coup, je vais juste élargir un tout petit peu, mais est-ce que du jour au lendemain, quand on se retrouve du coup, plus dans les clous au niveau de l'âge pour l'espace ado, est-ce que ça crée un manque ?
Ah oui, bien sûr. J'angoissais à l'idée de ne plus pouvoir vivre ces expériences, le fait de pouvoir partir en tournée en France, rencontrer de nombreux artistes de nombreux pays différents. Et c'est dommage parce que c'est vraiment divertissant. On sait quoi faire en rentrant du lycée, par exemple. On se dit, ah, je vais aller répéter pour quelque chose de concret, parce qu'on a un but, c'est la tournée d'été et les festivals SIOF. Donc, c'est dommage que ce soit bloqué, entre les 11-18 ans. Ce serait bien que le projet soit élargi ou qu'il y ait une autre structure du même genre qui soit créée, quoi.
Oui, voilà, qu'il y ait quelque chose qui prenne le relais éventuellement après, oui. Si l'espace ado peut plus, qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour que vous ne retrouviez pas du jour au lendemain sans plus rien.
Voilà, oui. Ah bah, c'est dommage, on aime faire de la musique, on aime être sur scène, mais les portes se ferment un peu.
Allez, ne t'inquiète pas, on est là pour les ouvrir. Et en tout cas, le message est clairement passé, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque ça sert aussi à ça, la radio. On va désormais s'attaquer au quartier. Alors, pas en mode Sarkozy, hein. On va pas y aller au Karcher, ça n'aurait pas d'intérêt. On va pas non plus s'y attaquer en mode Manuel Valls. On va pas. Bon, enfin bref, je vais pas vous citer tous les crétins qui nous auront abreuvé de discours plus atroces les uns que les autres sur les quartiers. Nous, on va essayer d'avoir un petit sens objectif. Et généralement, quand on veut avoir un sens objectif et subjectif à la fois, on fait appel à Cathy.
Merci. C'est trop d'honneur.
T'as vu cette patate chaude que je t'envoie là un peu ?
Ouais, ouais. Hein ?
Démarre-toi avec ça maintenant.
Alors, les quartiers. Alors, faut savoir que la politique de la ville a commencé à se structurer à partir des années 90. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait eu des émeutes à partir des années 70 dans les quartiers. Il y a eu plusieurs rapports, le rapport Bonne Maison, il y a eu le rapport du Bedou, je crois, aussi, jusqu'à ce qu'il y ait une conscience au niveau national d'une vraie difficulté pour les quartiers périphériques à trouver leur place au sein des villes. En 2004, il y a eu le plan Borloo, qui est encore le plan qui constitue la politique de la ville dans tous les territoires français maintenant, dans toutes les municipalités. Donc il y a eu plein d'argent, plein de choses qui se sont mises en place. Mais moi j'ai une petite question, je ne veux pas rentrer sur l'institutionnalisation et comment ça s'est construit. C'est qu'il y a eu une prise de conscience des problématiques des quartiers. Il y a eu de l'argent qui s'est mis en place. Il y a eu un ministère de la ville qui s'est créé dans les années 90. Il y a un élu politique de la ville maintenant dans chaque ville. Il y a un référent dans chaque région. Mais en fait on se rend compte qu'au lieu de progresser, les choses continuent à se détériorer. Donc ma première question, est-ce que finalement, cette politique qui était pour le coup généreuse vis-à-vis des quartiers et qui avait envie de résoudre les problèmes éducatifs et fonctionnels qu'il pouvait y avoir, n'a pas encore plus stigmatisé les quartiers ? Puisque maintenant on se retrouve quand même toujours avec les mêmes problématiques, mais avec un rejet des centres-villes, des quartiers périphériques. Parce que c'est vraiment ce qu'on vit dans les villes. Et c'est aussi un peu le champ d'action du Rassemblement national. Donc voilà, ma petite question, c'est ça. Est-ce que, au final, d'avoir créé tous ces dispositifs, ça n'a pas amené un peu plus de stigmatisation ? Et est-ce que ça n'a pas séparé les gens ? Parce que quand on est en quartier politique de la ville, quand on fait un projet, il ne faut que des enfants de politique de la ville, dans des quartiers repérés. Et puis quand on est au centre-ville, on travaille qu'avec les enfants du centre-ville.
Moi je dirais rest in peace Michel Delebas. Premier ministre de la ville.
C'est vrai. C'est assez vrai ce que dit Cathy. Après, ça pose d'autres questions. C'est qu'on ne saura jamais ce qui se serait passé si ces politiques-là n'avaient pas vu le jour. Si l'éducation prioritaire n'avait pas vu le jour, comment fonctionneraient les écoles dans ces quartiers-là? Personne ne peut répondre. Certainement... certainement moins bien quand même. Maintenant, effectivement, l'évaluation de tous ces dispositifs-là, elle est impossible. Elle est complètement impossible. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que finalement, on se rend compte que dans ces quartiers-là, il y a des gens qui se donnent un peu bonne conscience. Je vais y aller un peu franco, hein, mais bon,
On est là pour ça.
On est là pour ça. Il y a des gens qui se donnent un peu bonne conscience en se disant bon, voilà, on insuffle de l'argent, on insuffle des choses, maintenant débrouillez-vous. Sauf que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça n'explose pas? Moi, ça fait très longtemps que je me dis ça va péter, et ça pète pas finalement. Enfin, ça pète ponctuellement, ça pète. Mais ça fait 20 ans que je me dis, mais comment ça se fait que ça n'explose pas plus que ça? Parce que la situation, il y a quand même des choses qui sont insupportables et qui se passent au quotidien ou qui ne se passent pas, justement. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à ces quartiers-là d'aller plus loin? Pourquoi est-ce que ces quartiers-là n'ont finalement pas droit dans le droit commun? Pourquoi est-ce que ces quartiers-là ont besoin et ne sont pas pris en compte en amont? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on se dit pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir de la politique de la ville ou d'avoir des crédits spécifiques? Parce que finalement, la terminologie, on s'en fout. Mais pourquoi est-ce que ces quartiers-là ont besoin de plus? C'est parce que le droit commun ne leur permet pas d'exister normalement. Voilà. Et ça pose d'autant plus de problèmes aujourd'hui que tous ces trucs-là fonctionnent en appel à projet. Donc, c'est-à-dire que moi, je crois, et je le vis, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans les quartiers difficiles, j'y habite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est qu'on a des acteurs de terrain qui croient en ce qu'ils font, quelques habitants impliqués qui permettent que les choses tiennent le choc, des jeunes impliqués qui permettent que les jeunes sont impliqués dans les quartiers, qu'on arrête de dire le contraire. Et c'est comme ça que ça tient. Et c'est comme ça que ça tient. Sauf que dans les endroits où ça tient pas, on ouvre des portes qu'on ne maîtrise plus. Voilà. Et il y a quand même un certain nombre de quartiers en France. Alors à Colombes, on arrive quand même à peu près à tenir la barque, mais il y a quand même un certain nombre de villes en France où il y a des choses qu'on ne maîtrise plus. Voilà, je pense qu'il faut le dire, même si tout le monde n'ose pas le dire. Mais ça ne veut pas dire que dans ces quartiers-là, il n'y a pas des gens qui font... Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est le mouvement associatif, c'est quelques enseignants hyper impliqués dans le quotidien, et du coup, les pouvoirs publics s'appuient beaucoup là-dessus, mais de façon complètement implicite. Et si un jour, ces gens-là partent parce qu'ils sont fatigués, parce que c'est épuisant, ou pour une raison X ou Y, pour un autre projet de vie, eh ben, y a un truc qui se casse. Et ça veut dire que le droit commun n'a jamais vraiment pris les choses en compte de façon pérenne. Et aujourd'hui, tous ces fonctionnements par appel à projet où les associatifs vont travailler, ils vont avoir des crédits pour un an, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on insécurise les gens, parce que bon, ce projet, il va tourner un an. Qu'est-ce que ça veut dire, un projet qui va tourner un an? Est-ce qu'il a le temps d'arriver au bout? Est-ce qu'il a le temps d'avoir des effets sur les gens? Et puis, on insécurise les acteurs de terrain qui, eux, j'ai de l'argent pour un an. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Oui, j'espère que je vais l'avoir. C'est vrai que souvent, les projets sont reconduits, mais on insécurise tout le monde. Et du coup, quelle vision à long terme de la politique, quel que soit le champ d'action? C'est compliqué.
Mais du coup, tu as dit un truc hyper important. C'est vrai que le problème des quartiers de ces subventions qui viennent dans le cadre de la politique de la ville, normalement, c'était, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, c'est pour 3 ans. En fait, tu fais un projet, s'il fonctionne et qu'il est évalué, un appel à projet, il doit repartir dans le droit commun. On se rend bien compte, c'était comme ça qu'était prévue la politique du plan Borloo. On se rend bien compte, puisque ça a démarré en 2004, donc on a eu le temps d'évaluer, que finalement, rien ne rentre dans le droit commun. Et c'est vraiment l'abandon du droit commun. Dans les quartiers dont tu parles, souvent, c'est les services publics qui ne sont plus là, qui ne sont plus présents. Et en fait, il n'y a plus que la politique de la ville. Donc à l'échelle municipale...
J'ai cru que t'allais dire, il n'y a plus que la police.
Non, il n'y a plus que la politique de la ville et la police aussi.
Oui, voilà, c'est parce qu'eux, ils sont là, par
contre. La politique de la ville et la police. Et il y a un désengagement du droit commun dans tous ces quartiers-là. Est-ce que c'est pas là qu'est finalement le problème? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la politique de la ville arrive, j'ai envie de dire, comme un pansement sur une hémorragie. Et donc, au niveau municipal, quelle vision on pourra avoir pour essayer de changer un peu les choses? Est-ce qu'il y a un levier possible pour essayer de faire bouger les lignes?
Le levier possible, c'est la transversalité, c'est le fait de mettre des choses en place en long, en large et en travers sur toute la ville, de mélanger les gens, de mélanger les genres, et en ayant des objectifs communs. C'est un travail de fourmi, un travail qui n'est pas si simple parce que tout le monde n'a pas cette vision-là et que c'est une lutte contre parfois des habitudes ou des réflexions qui ne sont pas ancrées dans l'esprit de tout le monde. Moi, j'y crois en espérant que ça peut bouger. Après, c'est pas si simple. Il suffit pas d'y croire.
J'ai une question pour compléter un petit peu ce que vient de dire Cathy, que je trouve très intéressant. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une véritable dichotomie entre la politique nationale et la politique municipale ? Je m'explique. On a constamment, on l'a vu, je vais pas remonter très loin, je vais remonter sur 40 ans. Ce qui paraît très long, mais qui en fait suffit à voir quand même pourquoi aujourd'hui on en est là dans les quartiers. Depuis 40 ans, on a une alternance de politique nationale qui fait que tantôt on va consacrer des moyens en disant il faut qu'on arrive à tel objectif, probablement de manière sincère en plus. Et de l'autre côté, on va avoir à un moment donné des gens qui vont dire ah non, ça suffit là maintenant, les quartiers, il faut plus de répression, il faut plus de police, il faut plus de. Voilà. Donc, après ça, on a l'impression qu'en fait, on demande aux municipalités d'arriver à résoudre toutes les incohérences de la politique nationale qui est menée dans les quartiers depuis 40 ans. Et on a l'impression que les municipalités aujourd'hui sont, pour la plupart, pour la plupart, de bonne volonté. C'est-à-dire qu'on a envie de mettre des trucs en place dans les quartiers. Mais finalement, où est la place de la politique nationale et où est la place de la politique municipale dans les quartiers ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver un objectif commun, des moyens communs et quelque chose qui finalement serait fait pour le bien commun ?
Vaste question. Alors là, moi, je vais être très cash parce que je pense que depuis effectivement 40 ans, il n'y a aucune politique nationale qui a été conçue pour que les quartiers s'en sortent. Voilà. Après, c'est très personnel. Hein, je n'engage que moi.
Ah, mais je pense que tu as raison en plus.
C'est la même chose.
Moi, je pense que tu as totalement raison. Hein.
Oui. Mais et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'équilibre repose sur les acteurs de terrain qui, eux, sont convaincus, engagés, parfois issus de ces quartiers, donc en ayant une bonne connaissance, parce que je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est toujours mieux de le dire. Qu'est-ce qu'on connaît des quartiers quand on a un parcours scolaire linéaire, un parcours universitaire linéaire, qu'on a fait l'ENA, qu'on devient ministre, on ne connaît rien au quartier. On connaît ce qu'on nous en dit, on a des a priori, on n'y a jamais mis les pieds, sauf peut-être pour une conférence de presse. Donc voilà, et rien ne vaut un acteur de terrain qui va avoir ses forces et ses faiblesses, parce que rien n'est jamais si simple. Mais et dans les politiques nationales, alors ils ont compris ça quand même maintenant, qu'effectivement les acteurs de terrain tenaient la baraque. Donc on se dit, allez-y, on va vous donner des sous là pour cette année, pour mettre tel ou tel projet en place, et ça tient. Ça tient. Sauf qu'il n'y a pas de réflexion à long terme, il n'y a pas de projet à long terme.
Ça tient 2-3 ans.
Voilà, ça tient. On soulève le couvercle. Voilà, moi je dis ça tout le temps. On soulève, et je dis ça tous les jours au boulot aussi, en éducation prioritaire, on soulève le couvercle de la cocotte minute. Il y a un truc, voilà. Et effectivement, la pression s'échappe, on remet le couvercle, et puis on va resoulever le couvercle dans quelques temps. Mais je ne suis pas sûre qu'à long terme, ça fonctionne.
Bah non, c'est sûr, on le voit bien, ça fonctionne pas. Je vais te laisser la parole, Fred, parce que je suis sûr que tu as plein de choses à dire là-dessus.
Il trépigne.
Donc je vais te laisser la parole parce que effectivement le constat il est clair. Enfin, pour nous qui sommes des gens qui sont habitués à réfléchir à cette problématique de par nos diverses missions et fonctions, je sais pas. Sinon on a des idées. Pourquoi est-ce que finalement en haut lieu ça fait pas connexion?
Ben écoute, je sais pas, moi, étant énarque moi-même, ayant eu la chance de prendre des briques sur la tête dans ma petite banlieue et d'avoir fait l'école publique toute ma vie, quoi. Jusqu'à la fac, il y a des. Effectivement, c'est la connaissance, le mélange et la rencontre qui. Tout ça. Qui font que tu trouves des petites solutions. Les grandes solutions, c'est pas très simple. Et les solutions données, comme disait Valérie, aux potentat local. Déjà, des fois, c'est un peu dangereux aussi, parce que moi, je l'ai vécu depuis une quarantaine d'années. Donc, il y a des choses vraiment honnêtes, super classe, autres. Moi, le côté bac à sable, le côté mon petit quartier, mon petit banc public, mes petites merdes à moi, ça... c'est, je sais pas, ça n'a jamais passé. Donc, moi, je suis plus sur l'universel, même si c'est difficile, sur une vision de... On en parle, mais il va falloir y aller, hein, sur une vision de la laïcité un peu différente, et sur une vision de l'universalisme un peu différent. Moi, j'aimerais bien que les quartiers arrivent en centre-ville, et non pas qu'on mette cool des choses qui peuvent être sympas, mais des choses qui peuvent être toutes nazes dans les quartiers. Je parle pas seulement de Colombes, hein, je parle de choses à Mantes-la-Jolie, à Vaux-en-Velin, partout dans le monde, quoi, de la France, où il y a eu énormément d'erreurs pour des histoires politiques, parce que si le plan Borloo arrive en... Je suis pas un historien, mais en... 2004, dès 80, Mitterrand avait mis des choses aussi, des choses en place, des gisports, des équipements de quartier, des choses comme ça, pour que le PS implique les quartiers un peu, et pour remplacer un peu SOS Racisme qui était un peu essoufflé, on va dire. Donc c'est toujours des choses un peu agit pour la vision politique, quoi. C'est ça qui me dérange un peu globalement.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce que et tu dis, c'est en gros, on fait un truc pour donner un signe politique, mais en fait, finalement, le fond, il est pas là.
Pas vraiment. Et c'est le gros problème, parce que quand tu sais, et tu as vécu la mixité, tu as vécu là-dedans, tu as vécu l'échange où tu vois des gens différents, où tu comprends pas tout le temps, quand t'as la chance de vivre là-dedans, tu te dis que bah ouais, effectivement, y a des choses que tu comprends un peu plus, quoi, sur la différence, sur la complémentarité, sur l'échange, sur tout ce qui peut se passer, sur les richesses, et pas sur une réflexion entre centre et périphérie, comme on l'a fait pendant longtemps entre l'Occident et l'Orient, le tiers-monde et le centre européen de la ville, enfin, que ce soit aux États-Unis ou autre, mais bon, les États-Unis, c'est l'Europe.
Oui, mais tu peux dire le centre blanc.
Voilà, le centre blanc.
Ouais,
voilà.
Oui, complètement.
Le centre blanc et autres, et ça en appelle à tout, au colonialisme, à tout, tu vois, à la racisation, à tout, toutes les choses, quoi, à la mise au banc d'une société. Donc moi, contrairement, je ne suis pas anglo-saxon, je suis colombien, je comprends un peu les choses, je pense pas que la vision anglo-saxonne soit la meilleure. Je pense qu'on se fait tirer dessus, là, tu vois, par plein de gens, tu vois, par rapport à notre système, entre guillemets, d'intégration. Quand on sera excusé vraiment par rapport à la colonisation, par rapport à plein de choses, on pourra revoir ça, on pourra voir le mélange, la mixité et autres. Il faut que les quartiers soient attractifs, c'est-à-dire qu'il y ait des vraies écoles, qu'il y ait des vraies associations éducatives, qu'il y ait des appartements attractifs, qu'il y ait tout pour que les gens se mélangent. La seule chose qui marche, c'est le mélange aujourd'hui. La mixité, le fait qu'on puisse parler de choses différentes, qu'on soit pas chez nous, qu'on défende pas notre petit quartier de merde à deux balles. Et quand je dis ça, c'est à tous les niveaux, hein, au niveau culturel, au niveau éducationnel, au niveau religieux, à tous les niveaux. Non, l'idée, c'est d'échanger. Tout est important, tout est grand, et c'est de là que va venir l'avenir. Et il faut faire en sorte que ça existe. Aujourd'hui, on ne fait pas en sorte que ça existe. On ingère des millions, des milliards, peu importe, dans une politique un peu factice. Le problème, c'est que, eh ben, on crée un centre-ville et une périphérie, point à la ligne.
Oui, c'est ça.
Un public aisé et un public périphérique.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu as raison, Fred, de le préciser. C'est-à-dire que, quand même, l'un des arguments des gouvernements, c'est de dire, mais quand même, on a investi des milliards. On aura donné des milliards, finalement. Finalement, on s'aperçoit que oui, on a beau donner de l'argent étant mal utilisé, c'est-à-dire à de mauvaises fins, finalement, ça marche pas. C'est presque du gaspillage, finalement, parce que ça permet juste de maintenir la perfusion branchée. Du coup, moi, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit, Valérie, tout à l'heure, et qui... oui, alors attends, je te laisse la parole 2 secondes, parce que tu vas voir, on va se retrouver. Vas-y.
Moi, j'ai 31 ans aujourd'hui, donc enfin aujourd'hui, cette année. Et j'ai profité de la politique de la ville pour en arriver où je suis. C'est la politique qui a été menée dans ma ville et certains dispositifs qui ont été créés à l'époque qui m'ont permis d'être la personne aussi que je suis aujourd'hui. Moi, ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression, et même quand j'en discute avec d'autres, de parler souvent de facteurs chance, de rencontres chanceuses qui m'ont permise d'être intégrée dans des dispositifs dans lesquels je puisse m'épanouir et découvrir des choses, dont notamment la culture, la musique, ce genre de choses-là. Et je trouve ça malheureux, en fait, parce que c'est ça la problématique pour moi, c'est... Si c'est une chance, ça veut dire que tout le monde n'y a pas accès. Ça veut dire que j'ai été chanceuse d'avoir accès à ça parce que j'ai rencontré à un moment donné la bonne personne sur mon chemin qui m'ont permis du coup de porter à ma connaissance ces dispositifs et ces pratiques-là. Et moi, je pense que si aujourd'hui il manque quelque chose en termes de politique qui est menée, c'est notamment de faire le lien avec l'éducation et donc avec l'école. Parce que je pense que s'il y a bien un endroit où la majorité des enfants vont, c'est l'école, et que si on devait avoir vent des dispositifs qui sont mis en place dans nos villes, c'est par le biais de l'école qu'on devrait en être informé. Or, c'est pas le cas. Moi, ça m'est jamais arrivé par rapport à l'école. J'ai eu aussi la chance, du coup, d'être intégrée dans un dispositif qui faisait justement le lien entre les quartiers prioritaires et le centre-ville. À l'époque, j'ai intégré un dispositif qui s'appelait du Music au Slam. C'était en 2007, donc c'était vraiment... Enfin, il y a déjà pas mal de temps, je pense que ça faisait partie des premiers dispositifs de ce type-là qui étaient mis en place. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était au conservatoire que ça avait eu lieu. Et effectivement, comme le disait Valérie tout à l'heure, ça n'avait pas fait plaisir à tout le monde, et c'était compliqué de faire passer un dispositif tel que celui-ci parce qu'on avait affaire à des profs de conservatoire qui n'avaient pas forcément envie que les quartiers prioritaires mettent un pied au... Enfin, que les quartiers mettent un pied au conservatoire. Donc, je pense que effectivement, l'État aujourd'hui, s'il y a une politique de la ville pensée par l'État, la seule politique qui y est, elle est pas pérenne et elle compte sur les gens de terrain. Le problème, c'est que les gens de terrain, quand ils sont pas inclus dans une vision plus large de la politique, on compte sur des humains qui sont pas là tout le temps, qui peuvent pas s'occuper de tout le monde, qui peuvent pas faire les choses de manière transversale parce qu'ils ont que des petits moyens et qu'ils sont juste des êtres humains. Et je pense que c'est toutes ces choses-là aussi qui vont pas et que effectivement on pense pas la politique de la ville sur le long terme et qu'on pense juste à des actions sur du court terme en fait, et que c'est ça qui fonctionne pas, qui fait que ça peut pas marcher sur ça peut pas fonctionner. Et puis voilà, surtout le côté facteur chance, quoi. J'ai eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment et d'avoir été réceptive à la main qu'on me tendait à ce moment-là.
Comme quoi ça existe.
Mais
c'est trop rare.
Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Mélanie, parce que tout à l'heure Laura a dit quelque chose d'intéressant sur le côté pas pérenne et pour répondre au côté municipal. C'est vrai qu'il y a l'exemple de l'espace ado, où il y a cette pratique musicale accessible financièrement surtout, et accessible au niveau du temps. Et puis c'est pas qu'une pratique musicale, c'est tout un projet qui est construit qui fait que les jeunes, quand ils viennent et qu'ils adhèrent à ce projet, ils peuvent se projeter pendant un an. Ils peuvent se construire leur année scolaire. C'est-à-dire que voilà, ils vont aller en cours, ils vont pas aller traîner en bas, parce que souvent, les mômes, ils traînent dans les quartiers parce qu'il n'y a rien à faire, que tout ce qui est accessible, c'est soit au centre-ville, ou soit financièrement, ils n'en ont pas les capacités, ou soit ils n'ont pas l'information. Et que pour le coup, si on arrivait à développer effectivement des choses un peu plus transversales, de pratiques artistiques, de pratiques sportives. Alors le sport est plutôt bien développé là-dessus, je pense qu'au niveau des mômes de quartier, et encore, je suis pas d'accord, parce que la pratique sportive, elle est souvent très élitiste aussi, et puis c'est souvent un sport, le football.
C'est ça, on pourrait en parler aussi.
Oui, ouais. On peut en parler aussi, mais parce que c'est devenu aussi un phénomène d'ascenseur social, c'est-à-dire qu'en gros, on va miser pour que son gamin il soit bon en foot, pour qu'il puisse s'en sortir derrière. Enfin, il y a tout un truc, tout un tas de choses comme ça qui, à mon avis, sur la ville, si on arrivait à mettre ce pont transversal et on arrivait à ouvrir les pratiques culturelles sportives à tout le monde, on n'en serait peut-être pas là non plus.
Bon, Valérie, on t'a lancé plein de perches, tu as 30 secondes pour répondre. Voilà.
Sur le sport ?
Non, sur tout ce qu'on vient de dire là. Bah, tu veux que je te fasse un petit résumé des 12 dernières minutes ?
Non.
T'as pas parlé ou c'est bon, ça va
déjà,
aller
déjà lancé un certain nombre de choses. De toute façon, je l'ai déjà dit, c'est que les choses reposent trop sur une vision à court terme et sur des gens de terrain qui mettent tout leur cœur et toute leur énergie. Et heureusement qu'ils sont là. Parce qu'effectivement, quand t'as la chance de les rencontrer, et t'as raison de parler du facteur chance, quand t'as la chance de les rencontrer, c'est des gens qui te marquent une vie et qui te marquent un parcours, mais ça devrait pas reposer sur des choses comme ça. Ça devrait être un acquis, quelque chose d'évident et quelque chose de décidé. Or aujourd'hui, c'est pas décidé. C'est effectivement, il y a dans tel ou tel quartier une asso, quelqu'un d'influent dans l'immeuble qui va faire que les choses vont mieux fonctionner que dans l'immeuble d'à côté. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas conçu pour que ça fonctionne. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Tu parlais des politiques nationales tout à l'heure. C'est que, oui, ils insufflent de l'argent. On ne peut pas dire le contraire. Mais quel est l'objectif réel à long terme ? Fred parlait de la rencontre et de la mixité, mais bien évidemment, quelle est la solution ? Sauf que, aujourd'hui, et puis il ne suffit pas de la créer, de la mixité. On a vu dans certains quartiers, on réhabilite, on construit un super bel immeuble où les appartements vont être mis en accession à la propriété, mais on ne provoque aucune condition pour que les gens se rencontrent. Donc les gens, ils vont acheter un bel appartement, puis ils vont se dire...
Faites dans une résidence hyper sécurisée.
Voilà, ils vont se dire, moi je veux mon code, je veux mon parking fermé, mais je ne vais pas aller faire mes courses au marché d'à côté parce que je vais rencontrer des gens dont j'ai peur, que je n'ai pas... Voilà. Et du coup, la mixité, ça suffit pas. Ça ne peut pas être que de l'urbanisme. Ça ne peut pas être que je décide de réhabiliter un quartier en faisant des immeubles un peu plus jolis, un peu plus chers. Ça suffit pas. Les conditions de rencontre, il faut les décider, il faut les créer et les mettre en place. Et ça, c'est vraiment le rôle des pouvoirs publics.
Ça, c'est certain. Alors, je disais tout à l'heure, avant que Mélanie prenne la parole, je suis sûr qu'on va se retrouver dans ce que tu vas dire et dans ce que moi j'allais dire, c'est un petit peu ça. En fait, Mélanie et Cathy ont soulevé quand même quelque chose que tu avais déjà évoqué, Valérie, tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre en place la transversalité des actions pour qu'enfin on arrive à faire quelque chose de constructif.
Ça, c'est une vraie volonté politique, mais tout le monde ne l'a pas, clairement.
Mais est-ce qu'au niveau municipal, déjà, on peut, avec les attributions qui sont celles de la commune, est-ce qu'on peut, ou de la communauté de communes éventuellement, mais est-ce que déjà on peut arriver à mettre en place des actions conjointes ?
La commune de Paris ?
De 71
Non,
la commune de Colombes, alors.
Non, je parle de la commune en termes de... tu sais ce qu'on apprend en éducation civique, là, un truc commune.
Eh bien, là aussi, c'est une question de volonté politique. De la ville, ouais. C'est une question de volonté politique. Et si tu ne penses pas transversalité, si tu ne travailles pas en transversalité, forcément, tu laisses les fossés là où ils sont. Et du coup, tu ne les combles pas. Voilà, tu restes avec un centre-ville et des quartiers. Donc, c'est un équilibre précaire. Parce que les gens du centre-ville ont l'impression qu'on n'en fait que pour les quartiers. Les gens des quartiers ont l'impression d'être abandonnés. Et du coup, si tu ne le penses pas en transversalité et si tu ne provoques pas la rencontre, on en revient toujours au même débat, et si tu ne décides pas politiquement de provoquer cette rencontre dans ta ville par les actions que tu mets en place, ça ne marchera pas. Donc cette transversalité, elle est nécessaire, mais c'est une lutte de tous les instants.
Elle est dure à mettre en place, mais il y a quand même des gens qui en sont convaincus. Nous, les Zulus, la transversalité, c'est pas un mot tabou, c'est un mot qu'on emploie quand même assez régulièrement. On va finir par y arriver à un moment donné, vous allez voir, ça va aller. On va arriver à en faire quelque chose. On aurait pu continuer très très longtemps à discuter parce que c'est très très intéressant comme échange, mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Donc, On va s'arrêter là. Et on va faire une petite pause musicale où on va écouter un nouveau morceau du Tribute to Jamaican Music. Alors, ce qu'on va faire, on va changer un petit peu la donne, c'est-à-dire que Fred, tu vas nous dire ce que c'est que le morceau, et puis Laura, tu vas nous en parler un petit peu de ce morceau, si tu te rappelles lequel c'est.
Bah, moi, je sais, moi. Ah, pardon. Moi, je sais, main gauche, main droite, bouge pas, tout va bien se passer, la mixité, les quartiers, regarde, hop. Voilà, j'y arrive. Comment dire ? Alors, ce morceau, c'est un morceau qui s'appelle Monkey Man, qui a été repris par le Two Tone Special Style dans les années 80 en Angleterre. Mais c'est un morceau de mon ami Two Tone de Metal, Frederick Hibbert. C'est pour ça que tout à l'heure, dans ma chronique, je parlais de 54-46. C'était intéressant. Enfin, bon, je sais pas si.
Bah, en même temps, c'est.
Mais bon, voilà. Moi, ça me fait kiffer. Et c'est un des artistes un peu particulier du monde du reggae. Un peu soul, un peu funky.
Parle bien dans ton micro, Fred.
Quoi.
Oui, je dis parle bien dans ton micro.
Bah ouais.
Parce que tu as tendance à trop bouger la tête.
D'accord. Voilà. Ouais, je ne bouge plus.
Voilà, tu te figes. Et puis en même temps, 54-46, c'est un petit peu le score des municipales au deuxième tour de Colombie.
Exactement, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure.
Oui, on en avait bien compris, voilà. T'inquiète. Il est bon, il est bon,
alors,
il nous explique.
Celui-là, c'est pas le 54-46, c'est le Monkey Man de toutes. Alors, il s'appelle Frederick Hibbert, je suis assez fier parce qu'il a le même prénom que moi. Et oh, c'est un des tueurs de la musique jamaïcaine. Donc voilà quoi. Sur les routes et pour les. Et pour les jeunes générations, dont Laura, enfin bon, ça, voilà, elles aiment bien. Et, moi, j'aime bien, c'est bien. Ça fait le pont entre les. On parlait de transversalité tout à l'heure.
Ah bah laisse-la en parler du coup.
Oui.
Bah c'est un morceau qui quand nous a été, on nous l'a proposé, ça nous a directement plu. Et voilà, c'était. On a eu peu de temps pour le répéter, mais on a quand même pris beaucoup de plaisir à le faire, et puis je pense que c'est un bon hommage, et voilà.
C'était Tribute to Jamaican Music à l'instant. Fantastique, hein, vraiment un super chouette projet. On espère pouvoir les revoir en concert bientôt, parce que moi, j'ai pas eu le plaisir de les voir, donc j'espère les voir très très rapidement.
Bah, t'avais qu'à venir, hein.
Ah oui, bah écoute, il y a des gens qui travaillent, hein. Vous m'excuserez, madame, mais...
Mais on travaillait tous ce soir.
Ça va, je rigole. En tout cas, Valérie, on a pu constater que la fibre est intacte et qu'il y a de l'espoir, puisqu'il y a des projets et il y a de la bonne volonté. Donc, on se dit que l'espoir est toujours là. Merci beaucoup. C'était chouette de t'avoir avec nous.
Eh bien, merci à vous. Oui, j'espère que l'espoir est là. J'espère que la fibre ne s'usera pas, parce que c'est quand même une lutte qui n'est pas tous les jours facile.
Tu m'étonnes.
Mais voilà, on y croit.
Et on y croit avec toi. Et on croit en toi, en tout cas. Merci beaucoup, les copains. Merci, Julien, pour la technique. Merci, Fred, merci alias le somnambule. Merci, Cathy. Merci, Mélanie. Merci, Laura. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de Musique et Politique. À très bientôt, les gens.
Ciao.
À bientôt.